Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Marguerite Caton, mais aussi Tiffaine de Rocchini, Samuel Bernard et Garance Munoz, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Myriam Guillot. Dernier temps de notre semaine consacrée à l'exploration d'un monde sous perfusion métallique, après avoir vu la domination de la Chine sur les terres rares, la tension grandissante sur les marchés des métaux, les conséquences environnementales de l'extractivisme minier en Amérique latine. Place aujourd'hui aux questions politiques, multinationales contre État, à qui profite la rente ?
Le Congo a refusé que l'aide ou l'argent soit utilisé comme moyen de subordination de notre pays. Comme si l'on peut acheter la souveraineté de la RDC, la République démocratique du Congo, ou même acheter son indépendance. Le Congo n'est pas à vendre.
Nous conservons notre culture, celle d'être une entreprise congolaise, opérée par des Congolais pour des Congolais. Mais plus que tout, nous conservons notre mission première, celle de transformer les richesses du sous-sol congolais en richesses pour le peuple congolais. Voilà.
Il y a beaucoup de risques. Ce n'est pas construit avec le béton, c'est de la terre.
Si on avait des emplois ici un peu en RDC, on ne pourrait pas entrer ici. C'est par manque d'emplois pour un peu se nourrir. Fania, Fania
Kazi. Extrait des vœux de Joseph Désiré Kabila dans lesquels il évoquait la souveraineté de la République démocratique du Congo. On entendait également la voix du président du conseil d'administration de la GECAMINE, la Société Générale des Carrières et des Mines. C'était en décembre dernier, une entreprise congolaise, nous disait-il, qui transforme les ressources du pays en richesses pour le peuple. En République démocratique du Congo, le sol est riche, riche de ressources minières, or, cuivre, cobalt, étain, argent, manganèse, plomb, zinc, coltan. La liste est longue de ces métaux précieux. Et pourtant, à en croire l'indice de développement du pays, classé 176e sur les 187 par le programme de développement des Nations Unies en 2016, cette richesse ne profite guère à la population. Entre multinationales prédatrices, entreprises publiques douteuses, contrats louches et corruption politique, le secteur minier fuit de toutes parts. Alors que la colère gronde dans le pays et que les manifestations réclament le départ du président Joseph Kabila au pouvoir depuis 17 ans, alors que le code minier fait l'objet d'une tentative de réforme, les ressources naturelles du pays s'imposent comme le premier outil de développement, un outil aujourd'hui largement confisqué par le pouvoir. Alors comment s'organise le secteur minier aujourd'hui? Comment se répartissent ses revenus au sein de l'État? Et comment pourrait-on assurer une meilleure répartition, une répartition plus juste des revenus du sous-sol? Pour évoquer ces questions, nous avons invité ce matin en duplex depuis Bruxelles, Benjamin Rubers. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur en anthropologie à l'Université de Liège. Vous travaillez depuis de longues années sur les changements qui affectent le bassin minier industriel du Katanga, donc en RDC. Vous aviez notamment réalisé tout un travail autour des travailleurs de la GECAMINE dont on va parler. Depuis plus d'un an maintenant, on va commencer avec un peu d'actualité, si vous le permettez, Benjamin Rubers. La RDC est le théâtre, on le sait, de contestations, de violences récurrentes. Il y a ce mandat du président Joseph Kabila qui aurait dû arriver à son terme en décembre 2016, mais depuis, il refuse de quitter le pouvoir, repoussant sans cesse le scrutin d'élection présidentielle et opposant aux manifestants une réponse, disons, brutale, qui, à chaque manifestation, fait d'ailleurs des morts. Aujourd'hui, le régime promet des élections pour décembre prochain. Kabila devrait alors quitter le pouvoir normalement, c'est-à-dire 17 ans quasiment après sa première investiture en 2001, suite à l'assassinat de son père, Laurent Désiré Kabila. Mais il y a encore beaucoup d'incertitudes sur la tenue du scrutin, d'autant que l'opposition apparaît extrêmement fragile, avec un opposant historique, Étienne Tshisekedi, décédé en février dernier, un Moïse Katumbi en exil, un Jean-Pierre Bemba en prison aux Pays-Bas. Est-ce que vous croyez, vous, Benjamin Rubers, qui connaissez bien ce pays, en cette future alternance qui serait la première alternance pacifique, on l'espère, de l'histoire du pays, Benjamin Rubers ?
Non, je n'y crois pas beaucoup. En tout cas, donc pour décembre 2018, janvier 2019, tout simplement parce que l'ensemble des éléments ne sont pas réunis en matière, je dirais, de budget électoral, d'avancement dans le calendrier pour l'organisation des élections. Et puis aussi, il y a plusieurs gestes qui ont été posés récemment donc par le gouvernement qui nous prête à porte à penser, eh bien que les élections seront encore reportées.
Qu'est-ce qui vous le fait penser ?
Bien donc les dernières décisions hein, donc pour essayer donc de changer les modalités donc de candidature pour les élections, les blocages qui entourent la candidature de différents candidats, tous les problèmes qui entourent l'organisation donc des élections en termes de calendrier, de recensement des électeurs, etc. Donc il y aura certainement encore un petit peu de retard, même si on peut donc vous l'avez dit, il y a beaucoup d'incertitudes. On peut malgré tout espérer qu'elles seront organisées, si pas en janvier 2019, en tout cas en 2019 ou en 2020.
Est-ce que vous diriez, Benjamin Rubers, que la capacité de Kabila à se maintenir à la tête de l'État est liée à l'exploitation minière ? J'ai un peu une idée sur la réponse que vous allez me formuler et on va avoir le temps pour détailler les choses, mais dans quelle mesure finalement la mainmise du régime sur la rente minière lui permet aujourd'hui de conserver le pouvoir ?
Donc je pense qu'effectivement ça joue un rôle assez important à l'heure où donc le FMI, la Banque mondiale et les autres bailleurs de fonds je dirais sont plutôt en position de retrait, donc l'accès à la rente minière et en particulier à la rente du cuivre et du cobalt est essentiel pour le régime en place, et on a pu déjà le remarquer lors des précédentes élections 2006 et 2011 puisque à chaque fois, elles ont été précédées par la cession d'actifs assez importants et qui ont permis donc au gouvernement, eh bien, de bénéficier de pas de porte, donc de bonus de signature assez importants.
Et c'est encore le cas aujourd'hui, en ce moment, puisqu'on est dans une période a priori. Qui
préélectorale,
précède les élections.
Oui. Effectivement. Oui, donc il y a en tout cas des contrats qui sont en train d'être négociés, notamment avec des investisseurs chinois aujourd'hui. Et donc le problème, c'est que la gestion de la GKMine, hein, qui est l'entreprise publique qui gère, je dirais, ces partenariats, donc a une gestion très très opaque. Il y a effectivement pas mal de rumeurs qui entourent la négociation de contrats, donc la cession à nouveau de titres miniers en préparation de la campagne électorale, donc si pas en janvier 2019, peut-être dans les mois qui suivront.
Benjamin Rubers, il y a très clairement une volonté du régime de capter l'essentiel de la rente minière, et pour y parvenir, il y a un outil extrêmement utile qui est la GKMine. On en a déjà parlé, vous et moi. C'est elle qui fait finalement le lien entre les investisseurs étrangers et le régime. Cette GKMine, Société Générale des Carrières et des Mines, c'est une société d'État congolaise basée à Lubumbashi, dans la province du Katanga, qui a été créée en 1966, même si en réalité, il y avait déjà une entité à l'époque de la colonisation belge, qui était l'Union minière du Haut-Katanga. Vous pouvez nous présenter en quelques mots cette GKMine et essayer de nous expliquer un peu son rôle dans ce processus de captation ?
Ce qu'on peut faire, c'est un petit retour sur l'histoire. Donc, que ce soit à l'époque coloniale ou à l'époque du régime Mobutu, la GKMine était donc la première, je dirais, source de recettes pour l'État, pour le gouvernement. Et aujourd'hui, donc, elle apporte plus ou moins, c'est quoi, 25%, je dirais, du trésor public. Par contre, il semble que une bonne partie des recettes que touche la GKMine dans le cadre des partenariats avec les actionnaires privés ne soit pas déclaré auprès de l'État. Et donc le rapport qui a été publié par le centre Carter en décembre 2017 et avant eux par l'ONG Global Witness suggère qu'en fait donc il y a une bonne partie de ces recettes qui sont détournées vers donc des circuits informels et très probablement.
Ce que dit le rapport du centre Carter qui a été publié il y a quelques mois, c'est, je le cite, près des deux tiers des 1,1 milliard de recettes générées par les partenariats entre 2011 et 2014 n'auraient pas été enregistrées dans la base de données des revenus de la GKMine. On a donc environ 750 millions qui sont envolés sur cette période-là. Où est parti l'argent ? Qui en profite ? À quoi est-il utilisé ?
Eh bien, donc il y a un soupçon assez fort qui pèse, eh bien, sur les élites au pouvoir, et donc sur toute la garde rapprochée du président Kabila.
Alors on va voir justement quelle est cette garde rapprochée, mais d'abord un petit mot, parce qu'il y a quelques semaines, c'était le 22 décembre dernier, il y a eu une grande cérémonie d'inauguration présidée par le chef de l'État en personne, s'il vous plaît, des bâtiments rénovés de la direction générale de la Gécamines. Donc on est dans la province du Katanga, les dirigeants ont donc des locaux flambant neufs. En revanche, visiblement, les investissements dans les mines elles-mêmes n'ont pas été faits. Résultat, on a des infrastructures vieillissantes, des niveaux de production qui s'effondrent. Donc non seulement une grande partie de la manne est captée, mais en plus, l'outil de la rente minière est en train de se détériorer.
Oui, donc depuis maintenant presque le début des années 90, ce qui est assez intéressant, en tout cas pour un observateur extérieur, c'est que la Gécamines donc est en cessation de paiement. Aujourd'hui, on estime qu'elle a une dette d'environ 1,5 milliard de dollars de dette. Ces travailleurs accusent des arriérés de salaire. Aujourd'hui, environ 10 mois quand même d'arriérés de salaire, c'était plus dans le passé. Mais malgré tout, donc elle est utilisée comme une sorte d'instrument pour négocier des contrats avec des investisseurs étrangers et exploiter les gisements du Copper Belt.
Benjamin Ruber, s'il y a un homme qu'il faut qu'on évoque pour comprendre comment se fait justement cette captation, c'est Den Gertler. Alors, Den Gertler, il a notamment une fondation du côté de la RDC. Écoutez justement un petit extrait d'un film institutionnel qui présente cette fondation.
Créée en 2007, une initiative de la Gertler Family Trust, la Gertler Family Foundation fut fondée pour contribuer activement au développement social en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous sommes la plus importante fondation caritative du pays et restons engagés à répondre aux besoins des groupes vulnérables de la population congolaise. La Gertler Family Foundation œuvre dans la santé, l'éducation, l'infrastructure, l'aide d'urgence, la culture et autres secteurs, et ont de projets dans tout le pays.
Voilà, en apparence, une belle fondation caritative, Benjamin Rubers. Dan Gertler, un homme d'affaires israélien dont la fortune est estimée à plus d'un milliard de dollars, petit-fils de diamantaire. On va le présenter en quelques mots, mais vous allez le faire aussi. On est en pleine guerre civile. Il soutient la rébellion du chef rebelle à l'époque, Laurent Désiré Kabila, quand le pays est encore dirigé par Mobutu Sese Seko. Et en échange, quand Kabila devient président, il obtient le quasi monopole sur les diamants. En fait, Dan Gertler, c'est le grand argentier officieux de la RDC.
On peut le dire aujourd'hui. Donc il a eu des prédécesseurs qui ont pu aussi jouer un peu ce rôle d'intermédiaire entre les élites au pouvoir et des investisseurs étrangers, notamment George Arthur Forrest et Billy Rottenbach au début des années 2000. Mais ces derniers donc ont été largement supplantés par Dan Gertler, qui est maintenant considéré comme un proche du président Kabila et qui a joué un rôle effectivement très important autour de différentes transactions minières. Peut-être un mot sur l'extrait que vous venez de faire passer. Ce qui est quand même assez, je dirais, cocasse pour moi, c'est que ça fait maintenant, donc depuis 18 ans que je vais donc dans le Copper Belt congolais, et je n'ai jamais vu une action, je dirais, de cette fondation Gertler. Donc voilà.
C'est que vous n'avez peut-être pas bien regardé, Benjamin Rubert.
Ça doit être ça.
Ça doit être ça. 2011, tiens, par exemple, regardons un petit peu ce qu'il fait. 2011, à la veille des élections présidentielles, ce Dan Gertler rachète des mines qui appartiennent à l'État, ce qui permettait à Kabila d'avoir des liquidités bien utiles pendant cette période de campagne. Et quelques mois plus tard, l'ONG Global Witness dévoile des documents qui prouvent que l'État du Congo avait racheté à une société de Dan Gertler des droits pétroliers qu'il avait lui-même concédé en 2006, sauf que ces droits avaient été multipliés par 380 entre-temps. On a là un exemple de pratiques qui permettent à Kabila de se maintenir.
Encore une fois, je dirais, on le soupçonne, puisqu'évidemment, tous ces contrats sont entourés d'une très grande opacité. Et donc, évidemment, Dan Gertler lui-même et son groupe Fleurette vont nier tout en bloc. De même, d'ailleurs, que la Gécamines et le gouvernement. Mais ce qui est, en tout cas, incontestable, c'est qu'effectivement, si je reviens sur des contrats miniers, c'est qu'ils ont pu être acquis à bas prix par le groupe Fleurette ou par d'autres sociétés gérées par Gertler. Gertler, et puis revendu à des investisseurs comme Glencore ou comme ERG, avec un indice de multiplication assez important.
Assez donc, important, 380, c'est pas mal, effectivement. Il y a eu une décision très importante en décembre dernier qui est venue de la part de Donald Trump, le président américain, qui a signé un décret qui sanctionne Dan Gertler. Est-ce qu'il faut y voir le signe que Washington est décidé à faire tomber le système Kabila, on va l'appeler comme ça?
Je ne peux pas vraiment répondre à votre question. Mon impression est que le gouvernement américain actuel est relativement peu intéressé par ce qui se fait en Afrique. Et les dernières déclarations du président Trump, je pense, en attestent. Donc je doute qu'il y ait une véritable mobilisation de la diplomatie américaine pour s'ingérer dans les affaires congolaises et le faire partir. Au contraire, je pense que l'accession de Trump au pouvoir représente en tout cas une certaine opportunité pour le président Kabila pour se maintenir au pouvoir, puisqu'il n'y a pas de pression très forte de la part de la première puissance mondiale.
Benjamin Rubers, en novembre dernier, le président de la GECAMINE, qui s'appelle Albert Yuma, faisait un discours dans lequel il pointait du doigt les géants miniers mondiaux. Nos partenaires depuis 15 ans nous ont trompés et volés, ça doit s'arrêter, disait-il. Visiblement, le régime envisage d'augmenter les royalties sur les minerais, notamment sur l'extraction de cobalt, dont la demande explose. On en a parlé cette semaine à la faveur de l'essor des véhicules électriques qui ont bien besoin de ce cobalt pour leur batterie. Il est donc question de faire passer le cobalt dans la catégorie des métaux stratégiques, ce qui obligerait les sociétés minières à payer une taxe de 5% sur leur production. Aujourd'hui, on est entre 1 et 2,5%. Est-ce que vous diriez que, en effet, les récents contrats ont été mal négociés? Est-ce que le régime a l'ambition sincère de relever ses royalties pour qu'elles servent davantage l'économie du pays? Ou est-ce qu'il y a aussi là derrière une forme de pression sur les investisseurs étrangers, peut-être à des fins politiques?
Alors c'est une question, j'aurais qui demande une réponse en plusieurs points. Le premier donc renvoie, je dirais, au code minier de 2002, qui est un code minier, comme la plupart des codes miniers d'ailleurs en Afrique, est assez libéral et donc qui octroie toute une série d'avantages assez importants aux investisseurs et donc qui effectivement contribue relativement peu aux recettes d'abord de la GECAMINE, en tout cas jusqu'au à la révision des contrats miniers en 2009 et aux caisses de l'État, d'autant plus qu'ils peuvent jouer sur différents mécanismes fiscaux qui leur permet quelque part d'éluder très largement l'impôt. Maintenant, suite à la révision donc des contrats miniers autour de 2009-2010, la GECAMINE a pu augmenter en tout cas ses parts de pas de porte, de royalties et de dividendes, d'autant plus que...
Qu'est-ce que vous appelez des pas de porte, Benjamin Rubers?
Donc ce sont les liquidités qui sont apportées lors de la signature du contrat de partenariat et qui s'élèvent au-delà du million de dollars.
C'est des commissions.
Donc ce sont des commissions mais qui sont officielles, hein, donc ils ne sont pas informelles.
Mais si on revient sur la déclaration d'Albert Yuma qui dit qu'effectivement les niveaux de royalties ne sont pas à la hauteur, si je puis dire, est-ce qu'effectivement quand on regarde par rapport à d'autres pays, on constate que les niveaux de royalties en RDC sont en dessous de ce qui se pratique d'habitude?
Le problème, c'est que les royalties sont un petit peu négociées par les différents investisseurs au cas par cas. Donc on se rend compte qu'il y a des sociétés minières qui sont parvenues à négocier des royalties plus bas que les autres. De manière générale, et là on peut surtout comparer à l'époque de la GECAMINE, la contribution effectivement des investisseurs étrangers, je dirais, aux recettes de l'État et évidemment au développement économique et social de la région, est nettement inférieure. Le problème, maintenant, si on regarde les choses de manière plus globale, c'est qu'il y a une sorte de concurrence entre plusieurs pays producteurs de cuivre pour attirer les investisseurs et en leur offrant des conditions qui sont assez alléchantes en matière donc d'impôts, redevances, etc. Donc Albert Yuma n'a pas tout à fait tort dans cette critique, mais évidemment ce qu'il tait, c'est que on ne sait pas très bien où va l'argent d'argent qui est effectivement payé par les investisseurs étrangers à la Gécamines d'abord et à l'État ensuite. Mmh. Et donc c'est une question qui a peu attiré jusqu'à présent, en tout cas, l'attention des médias ou des ONG.
Albert Youma, justement, donc le président de la Gécamines, a affirmé dans son discours, quand il inaugurait ses nouveaux locaux, que si les retombées, justement, n'étaient pas à la hauteur des espérances et des attentes du peuple congolais, c'est à cause du code minier et de l'incapacité de l'administration à le faire appliquer. Alors, est-ce qu'effectivement le code minier a une responsabilité? Et vous nous en parliez, en 2002, il y a une modification de ce code minier. Peut-être qu'il est intéressant de revenir justement sur ces modifications, ce qu'elles ont apporté, ce qu'elles ont eu comme type d'effet.
Attendez, hein, donc il y a eu un nouveau code minier donc qui a été...
Il y en a eu un nouveau en 2002-2003.
Voilà, c'est ça. Hein donc, qui est un code minier, je dirais, largement rédigé par la Banque mondiale, assez analogue à celui qu'on trouve dans d'autres pays, et qui visait, en fait, à relancer simplement l'économie congolaise au sortir de la guerre, pour aussi appuyer donc le processus de paix en attirant des investisseurs étrangers. Donc ça, c'était la stratégie de la Banque mondiale, qui a eu des résultats assez mitigés. Et qui a conduit d'abord à un processus de revisitation donc des contrats, qui était appuyé par des ONG internationales, et maintenant donc depuis 2015, il y a un nouveau projet de révision du code minier et qui vise effectivement à contraindre les investisseurs à payer donc des redevances qui sont plus importantes, à les obliger avec sanctions à l'appui à rapatrier au moins 40% donc des bénéfices qu'elles réalisent et à verser directement donc les des dividendes aux entités locales et provinciales. Donc il y a toute une série de modifications qui ont été proposées visant effectivement à augmenter l'impact des investissements miniers en termes donc de développement local, provincial et national. Mmh. Maintenant, pour répondre... Ah, excusez-moi.
Non, non, je vous en prie, allez-y, poursuivez. Non, parce que peut-être qu'il faut faire les... On va revenir à d'abord celui de 2002. On va s'intéresser bien sûr à cette dernière réforme de 2015. Mais sur la réforme de 2002-2003, vous disiez ce code, il avait pour ambition d'attirer des investisseurs étrangers. Ça a plutôt fonctionné, même si évidemment l'impact sur l'économie du pays a été très limité. Mais est-ce qu'on est parvenu à attirer de nouveaux investisseurs et lesquels? Quelles sont les nouvelles entreprises? Il faut qu'on parle à un moment de la montée en puissance des acteurs chinois dans ce secteur-là. Est-ce que ce sont eux qui, finalement, ont bénéficié les premiers de cette évolution du code du début des années 2000?
Donc la libéralisation du code minier n'a pas d'emblée, je dirais, attiré des investisseurs. Et donc il a fallu attendre surtout la hausse assez exponentielle du cours du cuivre à partir de 2005-2006 pour voir arriver dans un premier temps essentiellement des sociétés d'exploration et des petits investisseurs dans le but essentiellement donc de pouvoir ensuite revendre des permis d'exploitation à donc des sociétés minières avec les capacités financières et techniques pour les exploiter, ou carrément, je dirais, spéculer sur ces titres miniers sur les places boursières canadiennes. Mais depuis lors, malgré tout, donc il y a plusieurs projets qui sont entrés en phase de production, je dirais entre une grosse dizaine, et parmi elles, donc on trouve là différents types d'acteurs. Donc il y a des sociétés disons qui sont cotées en bourse, je pense ici à Glencore ou à Freeport-McMoRan. Il y a eu aussi, bien sûr, des sociétés publiques chinoises, et puis alors des plus petites sociétés familiales, comme Chemaf, comme Forest, comme CDM, qui est une société chinoise, etc. Plus des investisseurs australiens, vous voyez, donc c'est... des investisseurs de différentes tailles, différentes origines. Oui. Mais le processus qu'on observe actuellement, c'est que la plupart des projets, des grands projets miniers, tendent à être rachetés par des investisseurs chinois qui sont publics ou qui sont semi-publics. Mmh. Et donc la Chine prend une place qui est maintenant de plus en plus importante dans le secteur cuivre cobalt au Congo.
Ouais, et puis vous dites par ailleurs que la présence chinoise, elle peut apparaître comme relativement limitée quand on regarde les chiffres. En tout cas, on voit qu'il y a d'autres acteurs qui sont arrivés dans le secteur ces dernières années. En revanche, quand on regarde justement de plus près où vont les métaux qui sont extirpés de cette terre congolaise, on voit que les flux vont de plus en plus vers la Chine. On a par exemple cette entreprise Glencore, qui est une entreprise de négoce anglo-suisse qui possède des mines en RDC, qui organise l'exploitation de mines desquelles sortent des métaux qui irriguent le marché chinois. Donc les Chinois n'ont pas toujours besoin d'être directement présents pour capter ces ressources.
C'est exact. Donc effectivement, la hausse du cours du cuivre à partir de 2005-2006 a été essentiellement portée par la demande chinoise. Donc il a vu son secteur de la construction fortement se développer. Donc au niveau du marché mondial, je dirais, du cuivre, donc la Chine représente quand même une part de la demande importante. Maintenant, en ce qui concerne donc les nouveaux investissements en Afrique, on se rend compte que donc la Chine représente un nouvel acteur. Donc ça, c'est une nouveauté qui a fortement attiré l'attention des médias, mais qui a pu en même temps être quelque peu surestimé. Donc en termes donc d'investissement direct étranger, je dirais que le gros de ces investissements viennent essentiellement quand même encore d'Europe et des États-Unis, mais ça pourrait éventuellement changer avec le temps.
Et est-ce que les contrats qui sont passés avec les Chinois sont de nature différente de ceux passés avec des acteurs occidentaux, disons traditionnels et historique.
Oui, tout dépend de quel type de contrat on parle. Donc, il y a des contrats qui sont signés par des sociétés, par exemple sud-africaines, mais dont les actionnaires sont chinois, ou des sociétés australiennes, mais dont les actionnaires sont chinois. Et il y a des grands contrats. Je pense le grand contrat chinois qui est signé là directement par des grandes entreprises publiques. Et donc là, c'est un contrat qui a été directement signé au niveau de la présidence et avec là des modalités très particulière, puisque c'est une sorte de troc mine contre investissement et projet donc de construction, de réhabilitation, qui sont réalisés par des Chinois eux-mêmes.
Alors justement sur la dernière réforme du code minier, parce qu'en décembre dernier, l'Assemblée nationale a adopté un nouveau projet de réforme du code minier. Quels sont les grands axes de ce projet? Est-ce que vous pouvez nous les rappeler? Vous nous en avez donné quelques-uns, peut-être faut-il être un peu plus exhaustif. Et qu'est-ce qu'on peut en attendre, Benjamin Ruppers?
Donc, il y en a une dizaine, que je n'ai pas nécessairement tous en tête, mais donc c'est effectivement augmenter en tout cas la redevance minière qui est payée par les investisseurs, les obliger à rapatrier au moins 40% de leurs profits avec des sanctions à la clé. Il y a la volonté, de créer aussi une provision pour le développement local, etc. Donc c'est une série de modifications qui visent à quelque part augmenter, je dirais, l'impact social des investissements miniers.
C'est une ambition sincère?
Alors donc c'est une révision qui a fait l'objet quand même de consultations entre différents acteurs, mais qui a quand même été fortement portée par la société civile congolaise, avec aussi l'appui de différentes ONG étrangères. On voit bien qu'il y a beaucoup de réticences du côté des investisseurs étrangers qui menacent de quitter le pays. Donc je pense que la FEC peut-être, donc la Fédération des entreprises congolaises, le syndicat patronal, n'a peut-être pas encore dit son dernier mot dans ces négociations. Maintenant, du point de vue du gouvernement et de l'Assemblée, donc je pense que le projet est porté par les députés au sein de l'Assemblée nationale. Après, il faut voir, comme le code de 2002, comment il va être mis en œuvre.
Oui, sachant qu'il n'est pas toujours appliqué. On l'a vu dans les années 2000, celui de 2002 n'était pas toujours appliqué. Par exemple, il y a une limitation sur le nombre de contrats qui peuvent être passés. Je crois qu'il y a c'est 50 le seuil. Or, par exemple, la GKMine en a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus.
Voilà, donc en principe, donc l'ensemble des titres miniers devait être octroyé par un cadastre au niveau national, selon le principe du premier arrivé, premier servi. Malgré tout, le code minier permettait aux entreprises publiques de conserver un certain nombre de ces titres, un maximum de 50, pour redévelopper leurs activités. Ce qu'on observe, c'est que la GKMine a maintenant plus de 100 titres d'exploitation. l'occupation, qu'elle ne paye pas ses droits superficiaires au cadastre minier. Autre chose importante qui n'a pas été appliquée, c'est la rétrocession aux provinces et aux entités territoriales décentralisées. Donc en principe, les provinces devraient jouir de 40% de rétrocession. Or, actuellement, elles touchent, et encore de manière assez irrégulière, pas plus de 8, 9 ou 10% des redevances qui sont payées au niveau national. Raison pour laquelle on voudrait maintenant que les entreprises minières payent ces redevances directement aux provinces et aux entités locales. Et on peut s'attendre encore une fois ici que principes en tout cas du code minier, donc si du nouveau code minier, s'ils sont effectivement adoptés, soient contournés de différentes manières par la GKMIN et l'élite au pouvoir.
Oui, donc il faudra attendre pour savoir si vraiment ce code sera effectivement appliqué. On parle toute cette semaine de ce monde sous perfusion métallique, aujourd'hui multinational contre État, qui revient à la rente. On est avec Benjamin Rubers.
Organisation de la société civile, nous sommes très pressés et nous avons intervenu. Nous faisons des propositions pour que justement ce nouveau code minier puisse voir le jour. Cela est extrêmement important parce qu'il est dans la majeure partie des pays. Pour éviter justement ce qui avait été ce qu'on appelle aujourd'hui l'afro-pessimisme, où on disait la malédiction des ressources nationales. Il faut que nous puissions avoir des codes miniers qui aussi soient favorables à nos pays.
On a le fer à gogo.
Des codes miniers favorables à nos pays, disait Amadou Kanouté, directeur exécutif d'un think tank en faveur de l'adoption de codes miniers plus favorables à ces États africains. On va retrouver une nouvelle invitée. Qui est Bonnie Campbell, qui est professeure d'économie politique au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, directrice du groupe de recherche sur les activités minières en Afrique depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années, et puis ancienne directrice du CIRDIS, le Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. Vous êtes, Bonnie Campbell, l'une des grandes spécialistes de la question de cette gestion des ressources naturelles et notamment minières. Vous avez travaillé sur le Canada, mais beaucoup aussi sur le contexte africain. Vous aviez été notamment membre de l'International Study Group sur la révision des régimes miniers en Afrique, de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies. Ces derniers mois, Bonnie Campbell, on a vu un certain nombre de pays africains engager des processus de révision de leur code minier. On le voyait là pour la RDC, mais il y a d'autres pays qui sont concernés. Le Gabon, le Burkina Faso, le Tchad, l'Afrique du Sud, le Sénégal. Est-ce que vous diriez qu'on est rentrer là dans une nouvelle ère pour les États africains qui vont peut-être enfin pouvoir tirer profit de leurs ressources, ou est-ce que vous nuanceriez cette idée, Bonnie Campbell?
On peut parler de changements très importants, mais pour pouvoir les préciser, je pense qu'il faut aller quelques minutes en arrière pour voir un petit peu dans quel contexte ces changements se passent et rappeler que les réformes actuelles viennent en réponse à des réformes assez drastiques des années 80-90 qui sont étirées même dans les années 2000, des révisions instigées sous l'égide des institutions multilatérales, la Banque mondiale, le FMI, dans le contexte d'endettement et des programmes d'ajustement. Dans nos travaux, nous avons identifié ce qu'on appelait des générations de nouveaux codes, de plus en plus libéralisés. Je vous donne l'exemple du Ghana, le Ghana grand producteur d'or et de bauxite. Là, on a réduit le taux d'imposition sur les revenus des sociétés. On a aboli les droits sur les minerais, les droits d'importation, bref, toutes les sources qui constituaient des recettes de l'État. On a réduit les redevances de 6 à 3%. Donc, sur le plan économique, il y a eu un modèle qui a été mis en place, qui était avant tout monosectoriel, extraverti. On exportait la matière première brute et ça laissait évidemment très peu pour le pays et malheureusement, souvent, tout ce processus était dans certains pays, pas le Ghana, mais dans d'autres pays très riches, fait dans des conditions assez opaques. Et je voudrais juste ajouter, ce n'était pas simplement une libéralisation économique assez drastique, mais ces réformes ont amené un retranchement des États. C'est-à-dire, on a réduit leur souveraineté sur la gestion de leurs ressources. On a transféré des activités et des fonctions qui étaient avant publiques vers des acteurs privés. La Banque mondiale voulait que les compagnies deviennent opérateurs et propriétaires. l'État devenait un simple régulateur, donc très marginal. Et ça, ça explique un peu le contexte des années, fin des années 90 et 2000, où il y a eu vraiment une montée de demandes de révision des contrats et des codes miniers, portée à toutes sortes de niveaux, au niveau continental, et je pense que c'est dans ce contexte qu'on peut regarder de plus près les changements.
Vous aviez raison, il fallait remettre un petit peu en place les choses et rappeler ce contexte. Et c'est justement parce qu'il y a eu cette vague de libéralisation que, d'une certaine manière, les États ont un peu perdu la main sur tout cela, qu'aujourd'hui, ils veulent reprendre précisément la main. Mais justement, cette nouvelle vague de réforme des codes miniers de ces différents pays africains, est-ce qu'il n'y a pas un risque que, finalement, les différents pays d'Afrique se jouent une concurrence particulièrement féroce pour attirer notamment les investisseurs, parce qu'il va falloir quand même avoir des investisseurs, et que finalement cette course intra-africaine empêche les Africains de façon générale, de façon globale, de réorganiser la redistribution et la rente minière.
Alors la question soulève un point assez ironique. Dans nos travaux, ce qu'on a identifié dans ces réformes à travers des générations, c'est qu'on mettait à cette époque-là, par le type de réforme qui était introduite et exigée de ces pays, on mettait objectivement les pays en concurrence les uns avec les autres. On disait, par exemple, à la Tanzanie ou au Mali, regardez, le Ghana a réduit son taux de redevance, etc. Et on alignait toujours vers le niveau le plus bas. Donc, s'il y a eu ce qu'on appelle en anglais « race to the bottom », une course vers le bas, c'est-à-dire aller au moins demandant pour attirer l'investissement, c'est ça qu'on exigeait, c'était surtout dans la période de libéralisation à outrance. Alors le point que vous soulevez, est-ce que maintenant il y a le même type de difficulté? Il y a une reconnaissance que l'Afrique a été complètement délaissée. Donc il y a eu des prises de position au niveau de la commission économique. Les ministres de tous les pays responsables du développement des ressources minérales, dès 2008, à Addis Abeba, a émis une déclaration. Donc, ils sont ensemble dans cette réflexion sur qu'est-ce qui s'est passé par le prévenir. Et je vous traduis en français. Ils disent, nous sommes très préoccupés par la présence très répandue et le niveau très élevé de pauvreté et de sous-développement en Afrique, malgré la dotation abondante des minerais du continent. Donc, ça a été 2008, le lancement de quelque chose qui a été très important, une déclaration politique, 2009, la vision minière africaine, où les pays ont commencé à réfléchir ensemble, avec l'appui de la Commission économique.
J'entends bien, et j'entends bien les discours qui ont été portés, mais il y a une vraie question qui est celle de savoir s'ils suffiront et si les actes suivront. Parce qu'effectivement, il y a cette réflexion commune, il y a par ailleurs même une entité, un organisme qui essaye de penser globalement la redistribution minière, ça s'appelle l'African Mining Vision, et je crois d'ailleurs que vous aviez fait des propositions à cet organisme. Par ailleurs, vous étiez aussi membre de l'International Study Group sur les révisions des régimes miniers en Afrique, de la Commission économique de l'Afrique des Nations Unies. Donc on voit bien qu'il y a cet effort de réflexion, mais on peut se demander s'il ira plus loin, parce qu'on sent bien évidemment qu'il y a une nécessité pour les États africains de se regrouper, de se coordonner pour penser collectivement, j'allais dire, un modèle africain de code minier, je mets des guillemets, mais peut-être que c'est ça qu'il faudra attendre et qui permette justement une meilleure redistribution des richesses. Mais est-ce que vraiment les pays africains le font? Est-ce que vraiment ils pensent ça globalement? Ou est-ce que finalement on fait sa petite réforme minière dans son coin?
Mais si, votre question est tout à fait pertinente, parce que effectivement c'est quelque chose qui guette tous les pays. Le Canada pourrait être concurrentiel à la France, etc. C'est tout à fait réel comme problème. Mais si je parle de cet espace qui a été créé, cet espace de réflexion collective, c'est parce que les gens se sont mis d'accord sur des modalités. On a discuté à la Commission économique des questions, par exemple, les corridors industriels qui faisaient en sorte qu'il y avait des complémentarités entre les régions. Il y en a autour de l'Afrique du Sud, l'Afrique centrale avec le Mozambique, etc. Donc, concrètement, maintenant, comment cette vision se traduit? Ça a amené une réflexion sur des stratégies. Ça a amené aussi une réflexion sur la nécessité de l'harmonisation des codes dans les sous-régions. Donc, il y a toute une réflexion à la CEDEAO, en Afrique de l'Ouest, par rapport à l'harmonisation. Ça ne veut pas dire que tout, on décrète d'en haut. Il faut effectivement qu'il y ait une appropriation par les pays en fonction de leur réalité. Pour que le minerai ne soit pas exporté en forme brute, il faut réfléchir des politiques industrielles qui assurent ce qu'on appelle en anglais des linkages en amont et pour assurer l'utilisation du contenu local, une transformation locale. Et là, toutes ces questions sont effectivement des questions qui pourraient éventuellement mettre les pays en concurrence, mais ils ont quand même 25 ans ou 30 d'expérience de qu'est-ce que ça a donné de voir les matières premières partir sans que ça laisse grand-chose dans le pays, sauf souvent des dégâts environnementaux énormes et puis aussi des conflits avec les communautés locales. Donc il y a une conscience inter-pays de ce passé et une réflexion qui a été collective en utilisant la commission économique pour voir comment on peut réagir et qu'est-ce qu'on peut apprendre des uns et des autres.
Oui, évidemment, la prise de conscience, c'est déjà une première étape, elle est nécessaire, elle est indispensable. Puisqu'elle est là, justement, cette prise de conscience, essayons de voir quelle pourrait être le bon modèle, finalement, pour coordonner les efforts et peut-être pour harmoniser un petit peu les choses. Ça fait plusieurs fois que vous prenez l'exemple du Ghana. Est-ce à dire que le Ghana est un exemple à suivre et que peut-être le modèle de réforme de code minier que le pays a mis en place est un exemple à suivre? Parce que, bien sûr, on a compris, hein, les États veulent reprendre la main sur tout ça. Ils veulent que le secteur minier leur rapporte davantage, mais ils ne vont pas non plus pouvoir totalement fermer la porte aux investissements. Donc, il va falloir aussi un régime qui permette d'attirer ces investissements étrangers. Est-ce que le Ghana a trouvé le bon équilibre?
Eh bien, la question est une question assez impossible, parce que c'est l'équilibre pour le Ghana en fonction des exigences de sa population, du rôle des parlementaires. Et si j'en ai parlé, c'est parce que c'est un des pays qui est considéré comme modèle de gouvernance et qui a souffert beaucoup de ces formes de libéralisation et qui a su mettre en place. Mais je pourrais vous citer l'article du Code de 2013 de la Guinée sur les régimes applicables aux titres antérieurs qui exigent que tout titre minier ainsi que toute convention minière soit publié dans le journal officiel et sur le site web du ministère en charge des mines, et aucune clause de confidentialité présente dans ces titres ou aucune convention ne pourra être invoquée pour empêcher leur publication. C'est pour ça que je crois qu'il faut y aller par cas, mais votre question initiale, c'est de voir un mouvement d'ensemble. Est-ce que c'est un mouvement inévitable? Évidemment, il y a plein d'obstacles et parfois les compagnies sont pas très contentes avec la perte de leurs privilèges, mais à long terme, la stabilité sociale et politique, le développement de ces pays dépend de la mise en valeur de leurs ressources dans une perspective durable à plus long terme, d'une façon intergénérationnelle. Et je crois qu'il y a une prise de conscience qui est très très répandue, que il n'y a pas, there's no going back, on ne peut pas aller en arrière de cela. Et quand vous voyez les communautés se mobiliser pour empêcher, par exemple, toutes sortes de choses qu'on aurait pu voir au Burkina Faso, en Guinée, au Ghana, j'étais témoin des déplacements forcés au Ghana, c'est des choses qui se sont passées dans les années 90, et ça a amené une conscience qui a fait que les décideurs, les politiciens, ont doucement commencé à entendre, ça a pris du temps.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Merci beaucoup Bonnie Campbell. Je rappelle que vous êtes professeure d'économie politique au département de sciences politiques de l'Université du Québec et l'ancienne directrice du Centre interdisciplinaire de recherche en développement international et société. On va quitter l'Afrique pour prendre la direction de la Nouvelle-Calédonie. Nouvelle-Calédonie où en 1966, le général de Gaulle s'était rendu.
Vous avez un rôle français à jouer dans cette partie du monde. Vous êtes un morceau de la France. Vous êtes la France australe. Et vous devez, dans la paix, comme vous l'avez fait dans la guerre, être pour toute notre communauté nationale un exemple d'effort, de fraternité et de progrès.
Et oui, et c'est lors de ce déplacement que le général de Gaulle avait annoncé le projet de construction d'une nouvelle usine métallurgique dans le nord de la Nouvelle-Calédonie, à Kanyambo, un massif qui recèle l'un des gisements de nickel les plus importants au monde. À l'époque, le projet était déjà pensé comme un outil destiné à rétablir l'équilibre économique entre les provinces, très déséquilibré. Cette usine était censée casser le monopole de la société historique du nickel calédonien qui exploitait à Nouméa depuis 1910. Aujourd'hui, cette mine est en fonction. Elle s'est surtout développée dans les années 2000, à la faveur des accords de Nouméa de 1998 qui prévoyaient une certaine autonomie de la province du Nord. Sa construction s'est achevée en 2011. On va prendre la direction de Nouméa pour retrouver Claire Levaché. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes anthropologue, vous êtes postdoctorante à l'Institut agronomique calédonien. Cette usine, c'est le symbole de cette volonté d'une meilleure redistribution des bénéfices tirés du nickel. Et d'ailleurs, c'est exactement ce qu'a dit beaucoup plus récemment Édouard Philippe lors de sa récente visite en décembre dernier. Cette usine est l'un des éléments, disait-il, du dispositif de rééquilibrage de l'économie et de la production vers la province du Nord. Est-ce qu'on peut dire que 50 ans après le déplacement du général de Gaulle, cette usine est aujourd'hui de nature à enclencher ce rééquilibrage justement? Ou est-ce que finalement cet objectif demeure très incertain, Claire Levachet?
Alors, c'est pas qu'elle est de nature à enclencher, c'est qu'elle a enclenché de fait un rééquilibrage entre les territoires, tant dans l'aménagement. Le rééquilibrage a démarré avec la construction d'infrastructures publiques. Mais la construction de l'usine a renforcé en fait, et puis surtout a permis véritablement l'émergence d'un pôle de développement au nord de la Nouvelle-Calédonie. Mmh. Donc aujourd'hui, c'est visible. Il y a une zone Vauconnet-Pointe-Bout qui existe, qui s'est bâtie et développée autour de la construction de l'usine de.
Donc le rééquilibrage est déjà en route. Et pourtant, on peut s'interroger sur la durabilité justement de tout ça et sur la fragilité justement de cet outil qui permet le rééquilibrage. 2011, le président de la province nord de la Nouvelle-Calédonie, 2016 pardon, il s'était rendu à Paris pour rencontrer le Premier ministre de l'époque, Manuel Valls. Il y avait beaucoup d'inquiétudes qui pesaient sur une éventuelle fermeture de l'usine. Finalement, la société Glencore, à qui appartient l'usine, a décidé de maintenir l'activité. Et ce qui a pesé dans ce choix, c'est que le gouvernement français lui a assuré qu'elle n'aurait pas à rembourser la défiscalisation obtenue pour la centrale électrique, c'est-à-dire à peu près 200 millions d'euros. Alors, d'un côté, évidemment, on se réjouit parce que ça signifie que les emplois vont être maintenus et que cet atout pour le développement de la province du Nord est préservé. Et en même temps, il demeure une inquiétude concernant la rentabilité, la pérennité à terme de cette usine. Est-ce que lorsque l'indépendance sera effective et que l'État français sera effacé, l'exploitation de la mine ne sera pas menacée?
Alors c'est une question difficile et à mon avis bien plus globale en fait, qui touche les trois usines, parce que les trois usines, celle du Nord, celle qui est à Nouméa, donc de la SLN, et celle du Sud, exploitée par le Brésilien Vale, elles ont toutes les trois subi de plein fouet la crise de 2015. Et l'État s'est engagé auprès de la SLN et de Vale, et les a aidés également à traverser cette crise. En fait, la pérennité de l'industrie minière, elle va au-delà du seul modèle de KNF. En fait, elle touche. C'est une réflexion qui est très urgente de porter actuellement, en fait. Parce que cette crise a vraiment mis en lumière les fragilités en fait des choix économiques calédoniens
et quelles sont ces fragilités justement années, quelles sont justement ces fragilités pour vous, Claire Levachet?
Alors pour moi, c'est le nickel, c'est un marché qui est cyclique, volatile, et effectivement la construction des usines a fait fonctionner pour beaucoup l'économie, mais une fois que les usines sont en production, l'extraction a démarré, la dépendance au marché mondial se fait réelle en un sens. Et donc pour moi, c'est cette dépendance-là en fait qui est devenue visible, parce qu'au moment de la construction des usines, en plus les cours étaient extrêmement hauts. Aujourd'hui, les économistes pensent que on attendra plus jamais des cours aussi hauts. Donc il faut trouver des solutions et des stratégies pour continuer d'exploiter le nickel en fait, mais en ayant bien conscience que ça rapportera plus jamais autant au pays, quoi.
Et qu'est-ce qu'on peut imaginer justement comme solution? Parce que là, effectivement, il y a pour l'instant que des usines, de grosses usines avec derrière de grosses entreprises minières. Est-ce qu'il ne faudrait pas, par exemple, favoriser, je ne sais pas, l'émergence de plus petites structures, penser des structures plus petites ou finalement qui d'ailleurs pourraient davantage profiter aux populations locales, peut-être?
Alors, il existe déjà des, à côté de ces trois grosses usines de transformation du nickel, il y a tout un tissu de petites entreprises minières qui font uniquement de l'extraction. Alors, il y en a qui sont relativement grosses et qui exportent le minerai qu'elles extraient. Il y en a d'autres beaucoup plus petites. C'est très large, en fait, comme catégorie, les petites et moyennes entreprises minières en Nouvelle-Calédonie. Ça va de 2 salariés à 400. Donc, c'est très large. Je pense que la question à long terme, en fait, qui est posée actuellement politiquement dans le débat, c'est vraiment de préserver les trois usines. Et ce qui a fait l'objet de débat et même d'un conflit à la fin de l'année 2015, c'est vraiment de faire des choix en faveur de soit de maintenir des stratégies d'exportation ou de privilégier la transformation locale. Et une stratégie commune entre les sociétés minières localement.
Quoi. Benjamin Rubers, je me retourne vers vous. On parlait il y a quelques instants avec vous de la RDC. Peut-être que c'est une question aussi qui se pose du côté de la RDC, parce que c'est vrai qu'on a essentiellement de très gros acteurs en RDC. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi penser le développement de plus petites filières, de plus petites structures, avec des travailleurs, disons, artisanaux, qui s'intégreraient finalement au circuit qu'on connaît aujourd'hui, Benjamin Rubers?
C'est-à-dire que cette filière existe, hein, donc depuis, en ce qui concerne le cuivre, depuis 1998, il y a aussi un très grand nombre de creuseurs au Kivu, donc pour tout ce qui est exploitation de l'or, et puis Kassai dans une certaine mesure, mais aussi dans d'autres parties du pays, tout ce qui est coltan, diamant, etc. Ce qui est intéressant, donc, c'est le code de 2002 dont je parlais tout à l'heure, donc reconnaît l'existence de cette filière artisanale, mais dans les faits, c'est vrai que la plupart des titres miniers dans le Copper Belt ont été octroyés à des investisseurs étrangers, des grands investisseurs étrangers, et donc petit à petit, donc qui tend à marginaliser, je dirais, la filière artisanale. Du point de vue des acteurs politiques, on ne peut pas construire une politique de développement moderne, entre guillemets, sur base de l'exploitation artisanale, ce qui a quand même été suggéré par pas mal de chercheurs, puisque ça permet évidemment à une plus large population de vivre, malgré les dangers que ce type d'exploitation implique. Donc une distribution, je dirais, des revenus qui est plus importante, mieux répartie. Mais à plus long terme, évidemment, l'exploitation artisanale est assez limitée aux minerais de surface. Et donc, voilà, dans le temps, en tout cas, c'est vrai que ce type d'exploitation, je dirais, voilà, est plus limité à moins d'avenir.
Merci beaucoup, Benjamin Rubers, d'avoir été avec nous ce matin en direct depuis les studios de Radio France à Bruxelles. Je rappelle que vous êtes professeur en anthropologie à l'Université de Liège. Et un grand merci également à Claire Levaché qui était avec nous ce matin en direct de Nouméa, qui est anthropologue, post-doctorante à l'Institut agronomique calédonien et qui avait fait sa thèse à l'EHESS et l'IRD sur les contestations autochtones autour du projet du Sud. Merci beaucoup à vous également. Trying to prove I hidey, hidey, hiding. I'm not worth a thing. So your fortune's on a string. Blue smoke will take a very violent flight, and you will be changed. C'est avec cette très belle balade qu'on met un point final à cette série consacrée au métal. Metal Heart de Cat Power. On mettra peut-être les références de cette très belle musique sur la page de Culture Monde. 11h, presque 53 minutes, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Depuis lundi, vous nous parlez du Brexit. Hier, vous avez évoqué un article mis en ligne ces jours-ci sur le site bilingue La Vie des Idées par l'historien Laurent Varlouzet. Cet article, disiez-vous, jette une lumière nouvelle sur le Brexit et ses suites En quoi, justement?
Eh bien oui, cet article est intitulé « L'anomalie Brexit » et il est sous-titré « Le siècle européen des Britanniques ». Il propose une autre interprétation du vote « Leave » que celle qui s'est imposée dans la doxa journalistique. Non, prétend son auteur, historien de l'Europe du XXe siècle et professeur à l'université Littoral Côte d'Opale, on ne peut pas réduire le désir exprimé par une majorité des électeurs britanniques de quitter l'Union européenne à la manipulation par l'extrême droite de groupes défavorisés. Ou plutôt, l'explication courante du Leave par la montée mondiale du populisme n'est pas fausse, mais elle est insuffisante. Pour comprendre cet événement, il faut sortir des idées toutes faites quant à un prétendu euroscepticisme atavique des Britanniques. Et surtout, il faut se dégager du prisme franco-allemand à travers lequel nous avons l'habitude d'interpréter toute l'histoire récente des tentatives faites par les Européens pour enrayer leur déclin en se rapprochant. Oui, en réalité, il y eut toujours des Britanniques parmi les promoteurs de l'unité européenne. Mais on les oublie généralement quand on écrit cette histoire. Pour ce qui est de l'entre-deux-guerres, on cite toujours les mêmes. L'aristocrate austro-hongrois Kudonov-Kalergi, le plan brillant d'Union fédérale européenne, les discours à la nation européenne de Julien Binda ou l'Europe de la culture rêvée par l'Autrichien Stefan Zweig. Et on oublie du coup que le dernier chapitre du fameux essai de l'anglais John Maynard Keynes, « Les conséquences économiques de la paix », comportait un important volet européen. Oui, ce célèbre économiste qui avait assisté catastrophé aux négociations entre alliés devant aboutir au traité de Versailles proposait, je cite, « la création d'une union libre-échangiste sous les auspices de la Société des Nations dont les membres s'engageraient à n'adopter aucun tarif protectionniste sur les produits des autres pays membres ». Il précisait que l'adhésion de l'Allemagne et de la Pologne ainsi que des nouveaux États créés en Europe centrale serait obligatoire pour une période de 10 ans. Keynes réclamait également l'annulation de toutes les dettes interalliées au motif, je cite, qu'une nation débitrice n'aime pas son créancier. Alors, proposition plus limitée, vous me direz, mais combien plus réaliste que les grandioses projets de nature fédéraliste caressés par Aristide Briand à la fin des années 20.
Mais après la Seconde Guerre mondiale, justement, le Royaume-Uni manifestait assez peu de goût pour les projets fédéralistes européens.
C'est vrai, Florian, c'est vrai. Laurent Varlouzet l'explique par deux facteurs importants. D'une part, il y a le souvenir d'avoir été entre le 22 juin 1940, signature de l'armistice par la France, et le 22 juin 1941, invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne nazie, le seul pays à résister à l'Empire hitlérien. Et cet isolement héroïque a sans doute renforcé le sentiment britannique d'insularité. Ensuite, l'Empire britannique constituait alors un monde à lui tout seul. Néanmoins, comme le fait remarquer Laurent Varlouzet, les Britanniques ne se désintéressaient pas de l'Europe. Et Churchill en particulier poussa à la mise en place d'une construction européenne concrète, même s'il ne souhaitait pas que son pays y participe. En effet, comme l'écrit cet historien, le rapport des Britanniques à l'idée européenne a toujours été utilitaire et dépourvu d'idéalisme, pragmatique et tourné prioritairement vers l'économie et les réalisations concrètes. Ainsi, les Britanniques participent à la création de l'Organisation européenne de coopération économique en 1948. Quant au Conseil de l'Europe, eh bien c'est à Londres qu'il est créé l'année suivante. Donc, pas d'isolationnisme britannique, non. Mais à la différence des Français et des Italiens, les Britanniques avaient une grande confiance en leur propre État. De ce fait, ils étaient peu disposés à participer à des institutions supranationales dotées de pouvoirs propres. D'ailleurs, lorsqu'ils ont dû se résigner à demander leur admission à la Communauté économique européenne, à la suite de l'échec de leur propre projet concurrent qui était celui d'une association européenne de libre-échange, et qu'ils ont fini par l'obtenir en 1972, la CEE d'alors était régie par une logique intergouvernementale. Et c'est lorsque l'Union européenne est apparue comme relevant de ce qu'on appelle la méthode communautaire que l'opinion britannique y est devenue hostile. Un autre mythe à déconstruire selon Laurent Varlouzet, c'est celui du condominium franco-allemand sur l'Europe et donc de la marginalité du Royaume-Uni. Et d'un, le couple franco-allemand n'a connu le bonheur sans nuages qu'à deux reprises, entre 1976 et 1981 avec Helmut Schmidt et Giscard d'Estaing, puis entre 1983 et 1995 grâce à Kohl et Mitterrand. Et de deux, les Britanniques n'ont jamais souffert d'isolement au sein de l'UE. Il existe entre eux et l'Europe scandinave une affinité due, je cite encore Laurent Varlouzet, à une méfiance commune envers les institutions supranationales susceptibles de menacer la démocratie parlementaire nationale, ainsi qu'à la volonté de préserver leur propre modèle économique et social jugé plus efficace que celui du reste de l'Europe. Cet historien demeure optimiste sur les chances de voir la Grande-Bretagne trouver des moyens de maintenir un haut niveau de coopération concrète avec l'UE, même si ce pays cesse de participer aux institutions communautaires. Londres n'a plus les moyens de se détourner de l'Europe, conclut-il.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique et toutes celles que vous avez proposées sur le Brexit depuis lundi, qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.